premier sur l'info. L'info locale.
Avec MCM.
Présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine. On commence par les titres que vous développerez aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alain Juppé, 4 jours en Polynésie à partir de samedi soir. Le candidat aux primaires de la droite et du centre pour la présidentielle visitera les îles de Wahine et Raiatea. Il prévoit également plusieurs rencontres à Tahiti et notamment à Tevayuta sur la commune de son principal soutien, Te Ari Alpha. Alain Juppé qui profitera de son déplacement pour annoncer son programme pour la Polynésie. Le schéma directeur des transports collectifs pour l'île de Tahiti a été présenté ce matin au Conseil économique, social et culturel. Avis favorable avec néanmoins plusieurs recommandations du CESC. Cédric Valax a assisté à la séance ce matin et viendra nous présenter les principales critiques de l'institution pour dessiner le futur réseau routier de Tahiti. Et enfin, en deuxième partie de journal, nous parlerons d'un véritable phénomène numérique de société. Le jeu fait la une à la fois de la Dépêche et de Tahiti Info. Aujourd'hui, je veux bien sûr parler de Pokémon Go, le jeu vidéo pour smartphone qui fait un véritable tabac planétaire. À tout de suite.
Et sans bug, on commence, on démarre avec le programme de la visite d'Alain Juppé en Polynésie la semaine prochaine, Antoine.
Il est le candidat en tête des sondages pour la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle de 2017. Alain Juppé arrivera samedi soir à 21h45 à l'aéroport de Tahiti Fa pour une visite de 4 jours en Polynésie. Ce matin, le comité de soutien à Alain Juppé, présidé par le ministre du Logement et maire de Tevayuta, Te Ari Alpha, a présenté le programme du déplacement du candidat, mais aussi les raisons de cette visite.
Il vient et donc nous tenons vraiment à le remercier, comité de soutien Alain Juppé et puis toute la classe politique. Je pense que toute la société civile comprendra qu'un personnage de cette stature-là qui se présente aux plus hautes fonctions de la République française, qui prend le temps au mois de juillet de venir chez nous passer 4 jours, c'est déjà une marque de respect. Et puis c'est une volonté aussi, même si nous ne sommes pas les plus nombreux électeurs de la République, c'est une volonté de vouloir écouter, même si on n'est pas les plus nombreux, de vouloir comprendre et de vouloir s'adapter à notre situation.
Plusieurs visites sont prévues, notamment au marché de Papeete, sur la commune de Tevayuta justement, mais aussi à Wahine et Raiatea lundi et mardi prochain. Alain Juppé rencontrera également la population à plusieurs reprises. Des réunions publiques sont prévues à Papeari, Place Talahoy, mais aussi au Pink Coconut avec les jeunes Polynésiens et au Royal Tahitien avec les représentantes, je cite, de la condition féminine. Enfin, un dîner-débat est prévu à la salle philanthropique mercredi soir pour conclure ce déplacement. Alain Juppé entend présenter son programme pour la Polynésie. Il sera accompagné de l'ancien ministre de Dominique Perben, et le candidat entend notamment rencontrer les associations de défense des victimes du nucléaire. Il sera évidemment très attendu sur le sujet. Je vous le rappelle, c'est sous son gouvernement que la France avait relancé la dernière campagne des essais nucléaires de 95 à 96 en Polynésie.
On parle transport à présent avec le futur schéma directeur des transports en commun présenté ce matin au CESC.
Le Conseil économique, social et culturel qui a voté un avis favorable au texte du ministre des Transports, Albert Solia. Un texte qui prévoit, je vous le rappelle, une réorganisation complète des transports collectifs sur l'île de Tahiti et notamment sur l'axe Punoia-Aroué. Mais le CESC a formulé plusieurs recommandations ce matin. Cédric Valax était présent en séance. Cédric, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors Cédric, quelles ont été les principales critiques du CESC à l'égard de ce texte?
Alors, pour commencer, Antoine, le CESC reconnaît qu'à l'instar de tout document de planification, ce schéma directeur est établi pour définir le cadre, les buts et les objectifs à atteindre, ainsi que leur degré de priorité selon un échéancier fixé par le pays. Un échéancier qui, selon les mesures, permettra des réalisations à court, moyen et long terme. Par exemple, la nouvelle offre pour les transports en commun, avec de nouvelles dessertes et de nouvelles plages horaires, ainsi que les aménagements des voies d'accès aux quartiers excentrés et des stations qui les desserviront, sont programmés à l'horizon 2020. Par contre, ça sera plus long pour ce qui est du renforcement des lignes urbaines structurantes, le changement complet du parc de véhicules de transport en commun et la création de parcs relais qui permettront aux automobilistes de laisser leur voiture pour prendre un bus. Là, le pays vise l'horizon 2025, voire même 2035 pour un réseau urbain performant, offrant un haut niveau de service. Et c'est justement sur le long terme que le CESC coince et émet ses recommandations. Pour l'institution, la restructuration du réseau routier avec une voie dédiée au transport en commun est un préalable dans le cadre de la mise en place de ce schéma directeur. Ça coûtera cher et le PU ne l'a pas prévu dans l'immédiat. Le CESC estime également que le transport scolaire doit s'effectuer selon un dispositif et une organisation bien distincte du reste des transports collectifs. Une spécialisation qui, pour l'institution, doit être mise en œuvre rapidement. Plus généralement, le CESC estime que les transports en commun ne peuvent constituer une alternative à l'automobile que s'ils remplissent leur mission en offrant une bonne capacité de transport, de la disponibilité, une tarification accessible à tous, de la sécurité sécurité, des équipements adaptés, l'accès aux personnes handicapées, de la ponctualité et de la régularité, le confort et l'hygiène, c'est le fameux horizon 2035 dont je vous parlais tout à l'heure. 2035, date à laquelle le pays espère un réseau urbain performant, offrant donc un haut niveau de service. Au final, le CVC a adopté le projet de délibération portant approbation du schéma directeur des transports collectifs de Tahiti par 33 voix et 4 abstentions. Il estime toutefois, et c'est le sens de ses réserves, que ce projet de planification est trop schématique sur le long et moyen terme et pas assez directif sur le court terme.
Merci Cédric. Rappelons que les avis du CVC ne sont que consultatifs et que le texte va maintenant être transmis à l'Assemblée pour être voté par les représentants.
On parle politique à présent avec du mouvement à la tête des services de l'IJSPF et de l'environnement.
La nouvelle directrice par intérim de l'Institut de la jeunesse et des sports, l'IJSPF, a été nommée la semaine dernière en Conseil des ministres. Jasmine Richemont assurera l'intérim après le départ à la retraite de l'ancienne directrice Danielle Guyonnet. Jasmine Richemont, directrice adjointe de l'IJSPF depuis 2010, qui déposera sa candidature auprès du ministère de la jeunesse et des sports afin d'être titularisée à la place de directrice. Et puis du côté de la direction de l'environnement, Mireille Tatarata a été confirmée la semaine dernière au poste de directrice de l'environnement. Elle assurait l'intérim à la tête du service depuis le départ de Étienne Tarmini le 7 octobre dernier.
On revient à présent sur l'incident du Twin Otter aux Marquises ce week-end.
Les techniciens d'Air Tahiti dépêchés à Wahuka ont trouvé l'origine de l'incident qui a provoqué dimanche l'atterrissage d'urgence d'un Twin Otter. Comme suspecté, c'est bien l'échauffement du moteur de la climatisation qui est à l'origine de la fumée détectée dans la cabine de l'appareil. L'avion sera en mesure de reprendre ses vols lorsque toutes les vérifications nécessaires auront bien été réalisées et que les procédures administratives prévues auront été intégralement remplies, précise la compagnie. Cette remise en service sans climatisation dans un premier temps devrait intervenir dans la journée.
Merci Antoine, à midi et bientôt 8 minutes. On va faire une courte pause dans ce journal, on revient dans un instant.
Venez fêter les 35 ans de Pacific Film avec nous. Du 4 juillet au 3 août, une programmation exceptionnelle dans les salles Concorde, Hollywood et Liberty et un grand jeu sur la page Facebook pacificfilm.tahiti. Rendez-vous sur notre page pour découvrir la bande-annonce de l'âge de glace 5 et gagner peut-être ce magnifique Vespa Primavera 50 cm3. Plus 5 années de cinéma illimité, plus 12 mois de cinéma illimité, plus des centaines de passes privilèges. Des places pour la soirée de remise des prix du jeudi 4 août au Liberty et des cadeaux pour tous. Sympa la anniversaire Pacific Film, avec la collaboration des établissements Tracking et Fils.
Express Cécile, tellement plus facile.
U Express Cécile rouvre ses portes et le fait du 11 au 31 juillet. Un magasin tout neuf avec encore plus de produits et plus de services. Profitez de nos super promos, de nos ventes flash et d'animations conseils. Remplissez votre bulletin de participation. Des cadeaux à gagner tous les jours, dont un scooter Kimco au tirage au sort final. Du 11 au 31 juillet, venez fêter la réouverture de votre magasin U Express Cécile.
Express Cécile.
U mini gratin pomme de terre au cèpe, 4 fois 100 grammes à 595 francs.
Radio 1, premier sur l'info.
Eh oui, on reprend avec la Pokémon Go Mania qui débarque à Tahiti, Antoine.
C'était donc ça qui perturbait notre Alexandre Talercio. En tout cas, la Polynésie ne fait pas exception. La frénésie qui a envahi les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande depuis une semaine. 20 ans après la sortie du jeu vidéo et du dessin animé Pokémon, les petits monstres font encore parler d'eux. Le 6 juillet dernier, la Pokémon Company, associée à Google, a lancé un jeu sur smartphone qui utilise la géolocalisation et la réalité virtuelle. Concrètement, il est maintenant possible d'attraper des Pokémon dans les rues de sa ville ou même dans son salon à travers la caméra de son téléphone. Et si le jeu n'est normalement pas disponible pour le Fénois, les fans polynésiens ont très vite trouvé un moyen de s'adapter. L'astuce est très simple, se connecter à l'Apple Store ou au Google Play Store via une adresse anglophone. Sur le Fénois, le bouche-à-oreille s'est fait très vite et une page Facebook Pokémon Go Tahiti a été créée pour regrouper les joueurs. Une page qui compte à ce jour 426 membres. Le côté ludique du jeu qui pousse à se déplacer dans la ville donne une dimension toute particulière à Pokémon Go, que ce soit pendant une pause, après le travail ou sur la route, tout est donc occasion à partir à la chasse aux Pokémon, comme en témoigne Maeva, 32 ans, au micro de Valentine Bluet.
Le jeu Pokémon offre vraiment une dynamique assez sympa. On peut se retrouver entre potes, enfin on peut se faire des nouveaux potes, et franchement ça, à ce niveau-là c'est assez complet et c'est sympa.
Du coup tu joues quand j'imagine que tu travailles dans la...
Dans la vie je travaille, et quand on a une pause à midi, on sort, on va chasser des Pokémon, voilà, donc c'est assez sympa, c'est très ludique, ludique dans le sens où ça nous permet d'en découvrir un peu plus sur la ville de Papeete, des monuments, c'est ludique à ce niveau-là, ça permet de redécouvrir finalement la ville autrement encore.
Mais l'atout principal de Pokémon Go, c'est de réaliser le rêve de millions d'enfants qui ont maintenant grandi en se prenant pour les héros du dessin animé. C'est le cas de Paul et de Towser.
Je pense que comme tout le monde, c'est un rêve de gosse qui se réalise, quoi. On a tous rêvé de faire ça dans la vraie vie, et le jeu nous permet, donc.
C'est un peu notre tranche d'âge, donc on connaît tous un peu ou vu au moins une fois Pokémon, donc c'est un retour en enfance un peu quelque part.
Pas de panique donc si vous voyez des attroupements de personnes, le nez collé à leur téléphone, il s'agit simplement de dresseurs qui suivent la devise de leur jeu favori, attrapez-les tous. Et je vais vous révéler un petit scoop, on a deux fans absolus de Pokémon Go juste à côté de moi, il s'agit d'Alexandre Talercio, mais aussi de Frédéric Dubuis, le directeur de Radio 1, qui en sont tous les deux au niveau 4, 5.
Dites donc, 6, je suis passé au 6 tout à l'heure, vous monsieur Dubuis.
Toujours au 5, directeur.
Toujours au 5, comme vous êtes directeur, vous avez plus que ça à faire. Et on est en train de convertir monsieur Valax.
Aucune chance.
Voilà. Bon, on termine quand même ce journal avec deux projets envisagés par le ministre du Tourisme, Jean-Christophe Bouissou, et ce n'est pas l'installation d'une arène Pokémon.
Pas encore en tout cas, mais ça pourrait servir pour cela, puisque le ministre est porte-parole du gouvernement actuellement en déplacement à Paris et qui a rencontré le directeur du Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz, Philippe Nicolas. Une réunion qui avait pour objet le projet de construction d'un zénith à Tahiti envisagé par le pays. Pour Jean-Christophe Bouissou, la salle de spectacle couverte offrirait une capacité de 3000 à 4000 places, labellisées Zénith donc, et permettant l'organisation de davantage de représentations locales, mais surtout nationales et internationales. Il s'agirait du premier Zénith en Outre-mer, même si le projet n'est toujours qu'à l'état de réflexion. Et en tout cas ce matin, autre annonce du ministre après une rencontre avec l'architecte d'intérieur, muséographe et scénographe d'exposition Adrien Gardère. Cette fois-ci, Jean-Christophe Bouissou planche sur le projet de musée à Tahiti pour exposer la collection de 350 tableaux de maître de Paul Yehou Chichon, l'ancien patron de Renault, tout récemment retraité. Il est 12h12, voilà pour le journal de la rédaction.